Salut, c'est Gabriel, bienvenue sur le podcast Sortir de l'addiction pour ce 44e épisode dans lequel j'accueille Yann. Yann, à la suite de la perte de son frère, il s'est tourné vers le monde de la nuit pour s'évader de la réalité. Passé la trentaine, il a découvert les soirées techno sous MDMA et c'est dans ce contexte festif qu'il a rencontré sa nouvelle copine. Selon lui, elle avait tout pour elle. Il l'adorait, elle lui plaisait, il est tombé fou amoureux. Il savait qu'elle consommait, mais ça le préoccupait pas tant que ça. Après tout, désormais, dans son monde à lui, tout le monde consomme un petit peu. Ils se mettent en couple, ils emménagent en chambre chez Yann, et petit à petit, ils réalisent que leur idylle ne tient pas la route. Le loft qu'ils louent à Lausanne et le théâtre hebdomadaire de fêtes et after qui dure du jeudi au dimanche. Crise de manque, psychose, jalousie, paranoïa, Yann subit les conséquences de l'addiction à la cocaïne de sa copine. Il redoublera d'efforts pour sauver son couple, mais rien n'y fera. Après une énième crise, il craque. Sa relation détruite à cause de la cocaïne, il quittera sa copine. Dans cet épisode, Yann vient nous parler de sa relation avec son ex-copine, son ex-conjointe, et de la relation avec la cocaïne que lui a eue à travers, justement, sa copine. Petit trigger warning, on aborde le sujet du suicide du frère de Yann, mais on n'entre pas dans les détails. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram, @sortirdeladdiction. Pour soutenir mon travail, le meilleur moyen de le faire à l'heure actuelle, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Et sans plus aucune transition, je te souhaite une super bonne écoute sur le podcast Sortir de l'addiction.
Bah écoute, Yann, je suis ravi de t'accueillir. Ça fait un moment qu'on discute, en tout cas qu'on a échangé, etc., que tu m'avais proposé de témoigner. Donc aujourd'hui, on y est. Bienvenue sur le podcast.
Salut Gabriel, merci beaucoup pour ton accueil.
Aujourd'hui, c'est une histoire, elles sont toutes différentes, elles sont toutes comme elles sont, en fait. C'est toujours difficile de donner une définition ou de cataloguer un petit peu une histoire, mais aujourd'hui on est sur le témoignage de plutôt à travers d'un proche, hein. Tu vas nous parler d'une personne que t'as connue, d'une histoire que t'as vécue, c'est des épisodes qui sont très à la fois demandés, à la fois très écoutés, parce que la souffrance quand on est nous-mêmes addict, elle est réelle, mais elle est aussi pour les personnes qui sont qui vivent autour, que ce soit la famille, les conjointes ou les conjoints comme toi, ça a été ton cas. Donc je vais te laisser justement en parler, je vais pas trop en dévoiler. Ce que je te propose, c'est comme on s'est dit, tu démarres un petit peu par le point de départ et que tu nous racontes un peu qui tu étais, on va dire peut-être depuis l'adolescence, les études, etc. Et quel âge t'as aujourd'hui aussi, comme ça on peut se repérer et nous donner un petit peu du contexte et puis on va avancer comme ça dans ton histoire tranquillement.
Bah, je vais tâcher d'être assez concis hein, sur ce qui me concerne.
On a le temps.
Bon, je m'appelle Yann, j'ai 43 ans, je suis pharmacien de formation. J'ai une enfance plutôt classique, plutôt tranquille, un environnement familial taiseux. Ouais, on n'est pas non plus, on se parle pas beaucoup, mais bon, c'est plus, j'ai pas une adolescence à problème. Je fais beaucoup de sport. J'ai 15 ans de basket dans les jambes. J'ai plus de genoux, mais j'ai du basket. J'ai fait des études de pharmacie, donc assez longues, 6-7 ans. Je dirais que t'as déjà reçu une étudiante en médecine. C'est pas non plus, c'est pas tout rose, hein. Il y a beaucoup d'alcool, pas mal de soirées. Enfin, ça, c'est le milieu universitaire, je dirais, dans son ensemble. Une arrivée sur le marché du travail assez rapide. Beaucoup d'expérience à l'étranger, au Danemark, en Suisse, où je réside encore aujourd'hui. Se déclare dans ma famille la maladie de mon frère. Donc mon frère, bon, je pense qu'il avait une petite addiction au cannabis, mais elle n'était pas caractérisée. Je pense que c'était plutôt entre copains. Il était fragile, sensible, et puis il a été donc diagnostiqué schizophrène assez tôt, je dirais en 2007-2008. Mes parents l'ont très mal géré. Moi, j'étais loin. Je dirais que on n'a pas tout tenté. On n'a pas tenté le cognitif, notamment. Il avait, il serait qu'il donnait le change assez plutôt plutôt bien. Et puis finalement, il a mis fin à ses jours en 2014. Donc c'est vrai que ça a un peu bouleversé le foyer, on va dire, la famille. Et moi, donc j'étais en Suisse. Je me suis séparé de ma nana de l'époque. Je suis rentré à Lyon pour me rapprocher de mes parents. Et c'est vrai que c'est posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reprends contact avec les copains de fac qui avaient des familles, des gens, je dirais plutôt rangés, des vies plus équilibrées, ou me rapprocher, du monde de la nuit, ouais, d'oublier ça un petit peu. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'électro. C'est vrai que mais j'aime l'électro dans la voiture ou pour aller au boulot. Mais moi, le côté festif, monde de la nuit, je connaissais pas trop. Et c'est vrai que je m'oriente vers ça. En plus, à Lyon, on a de quoi faire.
C'est le sucre, la boîte à Lyon.
Ouais. On va dire c'est le sucre. Ouais, on va dire que c'est le sucre.
Ouais.
Mais voilà, je découvre un peu le monde de la nuit et c'est vrai que je me rapproche de certaines personnes. Alors au départ, c'était plus en mode sunset, tu vois, 16h, 22h. Donc là, il n'y avait pas trop de risques, il y a quelques bières, mais.
J'ai une question avant qu'on avance dans cette partie de découverte du monde de la nuit, etc. Si tu veux bien, évidemment. Hein, j'aimerais te demander à quoi pouvait ressembler le contexte lorsque il y a eu ce drame par rapport à ton frère. Tu disais que t'étais retourné chez tes parents, etc. À quelles ressources est-ce que toi tu as eu accès ou fait appel, ou même que ce soit tes parents? Comment est-ce que vous avez géré le deuil? Comment est-ce que je pose la question pour essayer de comprendre un peu les fondations émotionnelles dans lesquelles tu pouvais être avant justement d'aller vers la suite de l'histoire, et comment vous avez géré ça entre vous, tu vois.
Alors mes parents se sont soutenus tous les deux, l'un l'autre, clairement. Moi j'ai été un peu laissé mis de côté. J'ai tenté une thérapie, j'ai vu quelqu'un deux trois fois. J'ai pu aborder le sujet, j'ai pu mettre le doigt dessus, mais est-ce que je l'ai géré émotionnellement? Je suis pas certain. Je pense que je suis pas allé au bout du travail. Je pense que c'est ce qui a pu provoquer, ouais, la sorte de chute, ouais, je dirais.
Mais tu disais aussi, par exemple, que vous étiez assez taiseux dans la famille, donc c'est probablement une famille où on n'exprime pas ses émotions, où on communique pas son ressenti, où on ne se dit pas qu'on est triste, etc.
Non. On est des fils de marins. On a la peau épaisse. On se dit pas trop les choses. On avale. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple. Je l'ai vu enterrer toute sa famille. Je l'ai jamais vu pleurer. Donc, quelque part, il nous a transmis cette idée de garder notre dignité et d'avancer.
Ah, c'est comme ça, toi, que tu vois. C'est une question de dignité chez vous, le...
Un peu, ouais. Un peu. Mais c'est à double tranchant. Et moi, je sais que je dois avoir une certaine sensibilité que mes parents n'ont pas et qui fait que, à un moment donné, la charge est trop lourde à porter. Ouais.
Justement, tu vois, ce que tu dis, c'est que t'as une sensibilité, enfin, c'est que tu le dis, donc je vais pas dire je ne vais pas supposer, mais tu as une sensibilité différente à celle de tes parents, donc j'imagine que c'est quelque chose que tu as dû sentir assez jeune et assez tôt, et que comment tu as vécu avec ça, le fait de sentir que la sensibilité de tes parents et la tienne était différente, que toi tu avais probablement plus besoin de ressentir, de parler, de communiquer, même si ça ne se faisait pas dans les faits. Comment est-ce que tu l'as vécu en tant que jeune adulte, etc.? Est-ce que c'est un truc dont tu avais conscience ou que tu as gardé en toi, comme tu vois, ce manque de communication et compagnie?
Je pense que j'ai grandi dans l'idée qu'il fallait que je plaise un maximum. Qu'il fallait que je fasse surtout pas de vagues le terme anglais people pleaser me caractérise tout à fait. Je pense que c'est l'idée, c'est que je sois le plus sympathique possible, pas assez dur comme l'était mon père.
Et le fait de devoir être people pleaser et sympathique, etc., tu penses que c'était parce que tu cherchais l'attention de parents qui n'en donnaient pas beaucoup, ou parce que
Sans doute. Ouais. J'allais sans doute chercher chez les autres ce que mes parents ne pouvaient m'offrir. Ils n'avaient pas eu non plus. C'est toujours pareil.
Oui, ça, il n'y a pas de question d'accuser ou quoi que ce soit. Hein. C'est, on explique des choses et, ouais, bien sûr.
Moi, j'ai même fait l'erreur pendant quelques temps de considérer mes parents responsables du décès de mon frère. Ce qui était quand même, c'est affolant.
Non, mais t'as le droit de ressentir ça aussi.
Ouais.
T'as le droit de ressentir ces émotions-là, que ce soit. Que factuellement, ce soit la vérité ou pas la vérité, etc. C'est même pas à toi à en juger. Le truc, c'est que si tu ressens ces émotions-là, déjà, t'as le droit de les ressentir et il faut pas les refouler parce que c'est en fait, ça fait partie du deuil, ça fait partie de ces choses-là et des choses sur lesquelles on doit avancer et puis on prend du recul et donc voilà. Enfin, je voulais juste te dire que. Parce que quand tu le disais, tu te sentais un peu coupable, tu vois, de ressentir ça, mais c'est des émotions qu'on a le droit de ressentir. Après, on peut travailler dessus et aller un peu débroussailler tout ça, mais c'est tout à fait normal d'en vouloir à quelqu'un. Et toi, en l'occurrence, c'était à tes parents, mais c'est pas le fait de ressentir cette émotion-là n'est pas grave en soi.
Ouais, j'avais juste trouvé un peu mon comportement lâche sur cette histoire parce que j'étais loin de tout ça et eux étaient en première ligne. On en a discuté, on en a parlé et on a enterré le sujet, si je peux me permettre.
Ouais, bah vous voilà, comme pour plein de gens, vous avez fait ce que vous avez pu. Mais on comprend bien en tout cas qu'il y a voilà une fondations, une situation qui te met toi peut-être pas dans la situation avec une capacité à trouver des ressources à l'intérieur puisque communiquer, ressentir, etc. C'est très compliqué. Donc t'arrives à l'âge des études, etc. Et puis au départ de ton frère, enfin au suicide de ton frère, c'est un mot difficile à dire, mais c'est le terme. Et c'est à ce moment-là que tu me disais que tu découvres le monde de la nuit et l'utilité de certaines substances et ce que ça te provoque, etc.
Ouais, c'est à 33, 34 ans, ouais, que quelque part, je refais une crise de la vingtaine, ouais, donc là, je me mets à fumer des joints, assez régulièrement, par intermittence. C'est vrai que je pense pas avoir une vraie addiction, au cannabis. Là, aujourd'hui, ça m'attire plus du tout. Cannabis et alcool, je dirais que ça a toujours été mon fil rouge. Je pense pas avoir une addiction à ces substances-là. Je pense avoir la tête suffisamment bien faite pour me dire que je ne me mets pas en danger et que je ne mets en danger personne. Enfin, c'est au passé. Hein, depuis, il s'est passé d'autres choses. Mais c'est vrai que pour la partie monde de la nuit, clubbing et compagnie, là, c'est vrai que j'ai découvert assez tard la MDMA, ouais, l'ecstasy. L'ecstasy, j'avais essayé un petit peu en fac, mais bon, ça m'avait rien apporté de spécial. Et puis là, c'est vrai que je rencontre des gens que, enfin, moi, j'en fais quasiment des amis, quoi, d'entrée. C'est alors que ce sont des potes de soirée, quoi. Voilà, il faut distinguer, je pense, à la sincérité de ce qu'on peut avoir dans la vraie vie, de ce que l'on peut vivre et partager la nuit. Voilà.
Et tes premières soirées où tu consommes et tu rencontres ces gens-là, etc., ça ressemble à quoi? Ça se passe comment? C'est quoi le contexte?
Alors moi c'est principalement profiter du son. Moi c'est vrai que les premières fois c'est un apéro, c'est arriver au club le plus tôt possible pour voir tous les artistes et une fois que la soirée est terminée, moi je vais me coucher. Je suis fatigué, j'ai plus de jambes. Enfin c'est comme si j'avais fait 3 matchs de basket en une fois. Enfin c'est.
Bon, au début voilà, c'est sans drogue.
Voilà au début c'est pas.
Où avec, tu bois quoi avec alcool,
je,
quoi.
Je bois. L'ecstasy s'installe, la MDMA s'installe, mais à 5h du matin, moi, je suis lessivé, je vais me coucher. Enfin,
Ah ouais, malgré l'exta, t'es...
Ah ouais, j'y vais pour le son, hein, j'y vais pour danser.
Ouais, donc tu prends pas les grandes quantités, etc., quoi.
Non, ouais. C'est toujours assez raisonné, et je perds pas le contrôle, je me mets dans le son, j'emmerde personne.
Je gère,
voilà. Franchement, j'emmerde personne.
Ok.
Et Et puis donc, en quelques années plus tard, en 2018, c'est vrai que là, des amis me présentent une femme que j'avais déjà repérée, mais qui venait pas trop soirée, je savais qu'elle venait à ses apéros avec ces gens-là, et puis parfois qu'elle les retrouvait après. Mais c'est la seule chose que je savais. Moi, je voyais ces gens-là en club, en festival, enfin voilà. Et puis c'est vrai que cette femme-là me plaît, et c'est vrai que je tombe amoureux assez rapidement.
Qu'est-ce qui te plaît chez elle à ce moment-là?
Mais elle a quand même elle a une tête bien faite, elle a un regard qui est pas inintéressant, elle a un vrai discours, elle a une culture musicale, notamment jazz, qui est phénoménale. Je pense qu'elle a, ouais, elle m'attire, clairement. Chez là-dessus, il y a pas de, ça s'explique pas. Après, les voies de l'amour sont impénétrables, donc c'est. Et puis, mais je sais que si elle côtoie ces gens-là, c'est que peut-être ça cache quelque chose. Voilà. Et ce que je réaliserai trop tard, c'est qu'elle présente une vraie addiction à la cocaïne. Ouais. Une vraie addiction à la cocaïne. Et tes premiers podcasts solo, notamment, là, je retrouve exactement. Ouais, la maladie, la condition, ouais, de cette femme, ouais. C'est les fameux vendre-manche, ouais, notamment. Des soirées qui démarrent vendredi et qui finissent dimanche. Moi, j'ai le temps de dormir deux fois. Elle dort pas. On fait des soirées à la maison, je vois des gens qui arrivent chez moi le vendredi, je les vois deux fois au réveil. Et ils partent de chez moi le dimanche.
Mais donc tu veux dire que toi tu vis avec elle et qu'elle, elle fait soirée chez toi du vendredi au dimanche?
Ben on vit ensemble à un moment donné, on s'installe ensemble.
Mais toi t'as pas de... comment est-ce que toi avec le rythme de vie etc. que t'avais, t'arrives à vivre dans cette dissonance et à pas être alerté en te disant mais c'est normal, pas normal?
Je me dis que ça m'atteint pas, je me dis que notre relation tient bien. Du lundi au vendredi on a un quotidien qui est plutôt stable, qui est plutôt... pour moi ça tient, ça ne m'affecte pas personnellement, ça ne m'affecte pas. Je ne vois pas le mal à faire la fête le week-end, mais c'est vrai que c'est pas festif, en fait. Ça n'est plus festif, c'est se faire mal au cortex préfrontal pendant des heures. C'est comme
bah, si tout moi, le reste du corps, hein.
Ah, je pense que le foie et les poumons prennent aussi, bien sûr.
Oui,
mais c'est vrai que moi, je fume pas mal de joints. Au bout d'un moment, j'ai envie d'aller me coucher, quoi. 3-4 heures, je vais me coucher. Et puis c'est vrai que quand je me réveille, ben, y a souvent encore des gens à la maison. Ça peut arriver. Et puis s'il y en a pas, c'est là où je vois la maladie de très, 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 très près. Ouais.
Et par rapport à ces soirées, etc., toi, et par rapport à ton couple, tu dis, enfin, tu vois, moi, personnellement, quand je faisais la fête, comme ça, 2, 3, 4 jours d'affilée, fallait 3, 4 jours pour m'en remettre. Comment ça se fait que tu disais, vous aviez une vie de couple, entre guillemets, normale, lundi à vendredi, qu'elle faisait? Comment ça se faisait qu'elle arrivait à tu vois?
Alors, elle bossait pas le lundi. Donc, moi, je bossais le lundi.
Mais elle dormait toute la journée le lundi, quoi.
Ah ouais, ben des fois, je pouvais pas interagir avec elle jusqu'au mercredi, hein.
Ah oui, mais normal. Ah oui.
Quand l'effet de la cocaïne disparaît, ne reste que l'alcool et, je la voyais en souffrance pendant quelques jours, ouais, bien sûr.
Mais donc, toi, tu vis avec quelqu'un qui en consomme et à ce moment-là, pour toi, c'est le week-end et c'est en sortie et tu te dis, la fête le week-end, pourquoi pas, c'est pas si grave que ça, quoi. Et pour toi, c'est cocaïne le week-end et puis le reste du temps.
Alors c'est vrai que c'était quoi, deux week-ends par mois, on va dire. C'est vrai qu'on arrivait à mêler ça avec une activité à côté, je dirais plus normale, plutôt visite de famille, voyage week-end. Oui, ça on arrivait à le faire aussi. C'est ce côté excessif par moment, ouais, qui aurait dû m'alerter. Qui aurait dû me faire dire non mais c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais, quoi.
Et c'est avec des gens de quelle génération, de quel âge, etc.
Alors c'est de 30 à 50.
Ah oui, d'accord, donc on n'est pas dans les on n'est pas chez des petits jeunes, quoi.
Non, et certains sont parents, hein.
Ah oui, bah ça.
Mais moi-même, j'avais eu un ado. Enfin, mais bon, toutes les catégories d'âge sont là, toutes les catégories socioprofessionnelles. Enfin, ça touche tout le monde. Hein, ça touche tout le monde.
Et justement, en termes de catégories socioprofessionnelles, ça pouvait. C'était quel milieu, si on peut dire ça comme ça, les gens avec qui elle faisait la fête, que vous fréquentiez, et compagnie.
Ah, il y avait de tout. Il y avait des personnes qui avaient fait de longues études, d'autres qu'on n'avait pas fait, des personnes qui travaillaient dans les bureaux, des personnes qui travaillaient dans le public. Non, il y a de tout. Il y a de tout.
Et ça ressemblait à quoi un week-end comme ça? Toi, ce que t'en voyais, c'était comme le classique alcool, musique et coke partout sur la table, tout le monde avec ses petits sachets, ses petites boîtes.
Ah, les assiettes qui passent au micro-ondes, là. J'ai jamais vu un micro-ondes tourner autant. Hein,
Mais ils mettaient de la cocaïne dans le micro-ondes ou du speed?
Non, ils chauffaient l'assiette.
Ah ouais, bah oui, parce qu'il... Oui. Qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais...
Ouais, bon, après l'assiette... ouais, les assiettes qui tournent, quoi.
Et puis qui cassent.
La kétamine, c'est venu après. Il y en a certains, ouais. Ça, c'est celle qui m'inquiète le plus aujourd'hui, je pense. Même pour les nouvelles générations. J'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle cocaïne.
Ouais.
Elle me fait très, très peur, celle-ci. Je sais pas trop comment ça va tourner, mais... J'ai vu un paquet de gens coincés, ce fameux keyhole, là, les gens qui, tu leur parles, mais en fait, ils sont plus là.
Ouais. Et quand tu le vis, c'est très compliqué parce que tu changes de, c'est très, 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 très compliqué. Mais pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, et faire le parallèle avec mon histoire, moi, la kétamine, il y a 10 ans, 10, 12 ans maintenant, quand j'ai commencé la cocaïne, la kétamine, on n'en parlait pas. C'était vraiment, on n'en parlait quasiment pas. Et c'est arrivé 4-5 ans plus tard, je dirais. Il y a un milieu qui a popularisé, ou en tout cas dans moi, mon environnement, c'était la musique drum and bass et l'explosion de ce qu'on appelle la drum and bass, mais il y a aussi la jump up, etc. Donc c'est un courant musical qui est arrivé juste après la popularisation de la techno dans les années 2010. Et dans ces groupes-là, moi, parce qu'il y avait les groupes de ceux qui allaient sur la techno, des groupes qui allaient sur la commerciale, des groupes qui allaient sur le rap, le reggae, et des groupes qui allaient sur la drum and bass, c'était très segmenté comme ça, les groupes, et chacun avait un peu sa consommation. Et moi, dans le truc un peu branchouille électro-techno, c'était la coke. Dans les milieux électro-techno plus underground, c'était l'MDMA. Et dans la drum and bass, on a commencé à voir arriver la kétamine. Et moi, j'ai vu, ça a été un raz-de-marée, quoi. Du jour au lendemain, tout le monde et les jeunes, etc., en prenaient. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'entends des témoignages de personnes qui m'expliquent les conséquences que ça a eu sur eux, sur leurs reins. Quand tu veux faire une désintoxication, une cure pour sortir de la kétamine, c'est extrêmement compliqué. C'est addictif au possible. Donc, c'est vraiment une horreur, ouais.
Ouais, moi, j'ai très, très peur. J'ai vu des gamins de 16, 17 ans dans des états pas possibles.
En plus, le truc, c'est que c'est pas cher. Le truc, c'est que c'est super accessible et que c'est pas cher. Moi, à Liège, je me rappelle, quand tu connais un gars, enfin, quand tu connais ce qui était mon problème à moi, je connaissais un petit peu trop bien les dealers, etc. Donc, j'avais toujours des prix, mais 10, 15, allez, 15, 20 euros maximum le gramme. C'était très courant, quoi. Ce qui est plutôt 30 ou 40 dans certaines autres zones et compagnie, mais quand t'es gamin et que tu connais des gens et que pour 15 ou 20 balles t'as un gramme de kétamine, ça te laisse t'as accès à la défonce qui est quand même assez facile, quoi.
Ouais, bah j'ai même le souvenir de fin de soirée où les gens ne savaient même plus trop ce qui tournait, quoi.
Ouais. Ils
plus trop à faire la distinction entre l'un et l'autre, hein. Donc, c'était un peu plus délicat.
Du coup, toi, au début, là, ce que tu disais, c'est que le contexte, c'est le couple, elle fait des soirées et toi, tu rentres pas dedans, etc. Mais il y a un moment où tu t'y mets aussi, toi.
Alors, moi, je vais jamais très loin dans les afters. Hein. Je m'effondre assez rapidement. Au bout d'un moment, tu sais, je suis... Il y a toujours quelqu'un en after qui sert à rien. En général, c'est moi. Je m'endors très vite. Enfin, je suis le spécialiste pour m'endormir en after. Ça, je peux m'endormir n'importe où. Donc c'est vrai que ça m'arrive de me réveiller, des fois dans des appartements, des fois chez nous. Et puis ça, il y a du monde autour de moi encore. Hein. C'est vrai que les gens enchaînent pas mal. Et ma conjointe aussi, elle fait partie de ces gens-là. Je peux faire tout de suite la transition avec. J'ai une anecdote toute simple. Une fois, je préviens ma conjointe que je quitte l'after, que je rentre à la maison et que je reviendrai la chercher plus tard. Donc le dimanche soir, je repasse dans cet appartement. C'est toujours plein de gens. Elle ne se souvenait même pas que j'étais parti. Ça donne un petit peu le niveau, tu vois. Et une fois de plus, je veux distinguer vraiment la personne avec laquelle je vivais la semaine et la personne qui était capable de se faire mal le week-end. Ouais, qui était capable de se faire mal. Hein, et quand je te dis se faire mal, ça pouvait aller jusqu'à des délires psychotiques, ouais. Ouais, dont j'ai été témoin à plusieurs reprises à mon réveil. Ouais.
Et du coup, c'est à ce moment-là que toi tu te réalises que ton cerveau commence à se dire bon, et tu te poses des questions, quoi.
Bah le problème c'est que moi ça me ramène directement à mon frère aussi, surtout parce que moi les psychoses c'est mon frère, c'est la schizophrénie, c'est le mal, c'est la mort.
Et puis c'est le souvenir de cet événement.
Ouais, il y a tout qui remonte là. Alors ça se matérialise par des écrits. Je pense qu'elle était en vraie crise existentielle. Donc elle questionne la vie, elle questionne plein de choses. C'est presque métaphysique. Enfin, alors elle me force à lire ces choses-là. Je me réveille, hein, je suis au café, hein, donc faut pas aller trop vite avec moi à ce moment-là. Et j'ai son regard. J'ai son chien apeuré dans un coin. C'est vraiment des moments que j'ai du mal à oublier, quoi. C'était une vraie épreuve. Ouais. C'était une vraie épreuve. Donc je sortais le chien en général à ce moment-là. Je préférais aller me promener.
Et ça ressemble à quoi, si t'es d'accord, hein, c'est parce que je me pose la question, mais justement, tu parles de phase psychotique. Moi, j'y connais rien. Je sais pas à quoi ça ressemble, ou en tout cas, j'ai jamais mis le mot sur ces choses-là.
Bon, alors, il faut savoir, cette femme. Donc ses parents se sont séparés très tôt. Le père est parti à 13-14, elle avait 13-14 ans. Elle est tombée dans le cannabis très à 15 ans. Elle a fumé jusqu'à 25. À 25, elle a arrêté le cannabis et elle est tombée dans la cocaïne. Donc 10 ans de cannabis, 15 ans de coke. Ça, c'est clairement un cas clinique sujet à des phases psychotiques.
Bien sûr.
Le cannabis donc freine le développement.
Cérébral,
et derrière tu mets donc de la cocaïne, tu es sûr que une fois, moi j'ai consulté certains experts, une fois sur quatre il y aura des troubles psychotiques.
Ouais.
Donc c'est de l'hyperagressivité, de la provocation, mais alors je crois qu'elle m'a attribué des relations presque à la moitié des femmes de la ville de Lyon, je pense. Enfin, elle s'est imaginé la paranoïa folle. Et surtout une vraie perte de contrôle c'est presque catatonique, tu vois, moi j'ai vu la mort de près, ouais, ça sent la mort, hein. Il y a pas d'autre mot, hein. Et une fois de plus, je veux distinguer cet accès bipolaire de la personne qu'elle est, hein. Je pense qu'elle a dans le déni le plus total, bien sûr, mais elle a quand même une tête bien faite, elle avait quand même un cerveau, et là, elle le met à mal. Elle le met à mal. J'espère qu'elle... J'ai plus trop de nouvelles. J'espère qu'elle prendra la conscience du mal qu'elle se fait. Et parce que là, elle crie des points de vie. Ouais, c'est...
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Quand il y avait plus personne chez moi, à l'issue de ces afters sans fin, c'est vrai que j'ai vu des extrêmes que j'aurais souhaité ne pas voir. Voilà. Bon, à côté de ça, bien sûr, l'appétit sexuel hein, qui va avec. Hein. Donc, vu que bon, la semaine, on n'était pas trop porté sur la chose, bah, c'est vrai que le week-end, donc à mon réveil, ou alors elle me réveillait. Et oui, j'y ai laissé un péritoine, quoi. On va dire ça comme ça.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop le sexe violent, on va dire ça.
Ok. Hein.
Mais là, ça l'était particulièrement.
Et c'était sur sa demande?
Ah ben là, je contrôlais plus rien. Hein. Faut t'imaginer, là, faut s'imaginer. Enfin, je sais pas. Quand t'as quelqu'un en face de toi qui a, je sais pas, quelques grammes de coke et de l'alcool à profusion dans les veines, la lutte n'est pas possible. Hein, donc la négociation n'est pas possible. J'ai beau dire non, enfin ça se fera. Et donc j'ai eu une double hernie inguinale. Voilà. C'était soit ça, soit elle me fracturait le bassin, donc elle m'a pété le péritoine, quoi. Elle a explosé, descente d'organes.
Mais, désolé, mais je veux pas te passer de l'extérieur, moi, c'est ce que ça m'évoque. Mais, c'est pas du consentement, Yann, si tu me dis, si je disais non, c'était oui quand même.
Mais le truc, c'est que moi, je suis un homme, j'ai aussi des besoins, et je savais que c'était ces moments-là où je pouvais espérer, avoir une vie sexuelle. Le problème, c'est que c'était pas dans les termes qui étaient les miens, ouais. Clairement.
Et est-ce que t'as perçu une escalade dans les demandes et dans les actes, etc. Est-ce que c'est allé crescendo cette violence ou est-ce que ça a été dès le départ clair que elle était adepte de telle ou telle pratique?
Au départ, je pensais qu'elle ne pouvait en fait avoir du plaisir ou passer à l'acte que quand elle l'avait consommé. Au départ, je pensais que c'était ça. Au départ, je pensais qu'il fallait qu'elle consomme pour passer à l'acte. Bon, c'était pas vraiment le cas. Le problème, c'est que plus les week-ends et plus les consommations augmentaient, et plus malheureusement ça pouvait se confirmer. Voilà. Après, comme je te l'avais expliqué, c'est vrai que on a quitté Lyon à un moment donné. On est parti s'installer donc à Lausanne, en Suisse. Et c'est vrai que pour moi, c'était peut-être une opportunité aussi pour sauver un peu notre couple et se détacher un petit peu de ces gens un petit peu que j'apprécie beaucoup, hein, mais qui malheureusement sont des âmes en peine et ont des travers qui peuvent nous emmener vers des limbes, vers des endroits qui sont pas recommandables. Et donc, on est arrivé à Lausanne et c'est vrai que les premiers mois ont été difficiles pour elle. Je pense que ce fameux craving, ce fameux manque était présent. Elle l'a déguisé en une forme de petite dépression. Ouais, c'était pas vraiment une dépression, c'était juste un changement de contexte.
Mais du jour au lendemain, elle a plus consommé quand vous êtes arrivé à Lausanne?
Ah bah elle a dû freiner. On n'avait plus le même réseau, c'était plus la même vie. Hein. C'était alors même si on avait un très bel appartement en plein centre. C'était pas du jour au lendemain qu'on allait repartir sur le rythme de soirée qu'on avait à Lyon, ça c'était évident.
Et si c'est pas indiscret, ce rythme de vie, parce que bon, un appartement ou même un loft en plein centre à Lausanne, c'est pas le plus accessible financièrement. Comment, c'est toi qui portais tout ou elle avait quand même un job et elle pouvait.
Non, c'est moi qui portais tout.
C'est pas indiscret, hein, bien sûr.
C'est moi qui portais tout.
Ok, donc toi, en tant que mec, t'avais en face de toi une personne malade qui t'entraînait malgré toi d'une certaine manière dans des choses que tu ne voulais pas. Et en plus de ça, t'avais la gestion du foyer et la charge économique, etc. sur tes épaules. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que tu vas, toi, tu vois,
je l'assume,
Yann, de ce moment-là?
Je l'assume. Je veux construire quelque chose. Je veux une vie avec elle. Je veux quelque chose. Je pense qu'au fond de moi, j'ai des projets. On s'entend bien. Je veux avancer. Je suis amoureux. Je veux avancer.
T'es un peu aveuglé peut-être aussi à ce moment-là, non? Enfin, genre parce que ça me donne. Enfin, c'est pas du jugement. Hein,
je suis naïf. Oui. Clairement.
Toi, tu mets le mot naïf, ouais.
Ah oui, non mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis complètement à côté de mes pompes.
Ok.
Clairement. Je le sais. Ben je le sais maintenant. A priori, a posteriori.
Mais à ce moment-là, il y a personne autour de toi qui te dit, écoute Yann, personne a accès ou voit de loin ou de près, toi, ton comportement, ton état de bien-être, etc., changé, tes parents, tes amis, j'en sais rien, personne.
Personne.
Ne,
personne.
Ne parle de ça avec toi en te disant, en te posant des questions ou s'inquiétant pour toi.
Non, non, les gens me parleront après. Après la rupture.
Ils te diront qu'ils ont observé, mais qu'ils osaient rien dire?
Ouais.
D'accord. Ça a dû être difficile, ça.
Ah bah, c'est, comme je te l'ai dit, hein, c'est en 2023 hein, que je me suis rencontré. Hein. C'est quand, quand tous les masques sont tombés que là. Ouais, là, ça a été. Ça a été la descente.
La vraie. Et comment ça se passe dans cette. Dans ce nouvel environnement à Lausanne, tu me dis au début, bah, elle a pas le choix. Vous reprenez une vie quand même plus ou moins normale, ou bien elle est en état dépressif ou...
Ouais, non, c'est elle est en manque, clairement, je pense.
Ça, ça se matérialise comment? Ça s'aperçoit comment?
Un mal-être, un mal-être. Je dirais, je sens qu'elle va pas bien.
Mais elle te le communique, elle appelle à l'aide, elle a des comportements.
Je pense que le fait qu'elle ait pas d'activité professionnelle à ce moment-là joue beaucoup. Je pense qu'elle me parle régulièrement d'un projet qu'elle a en tête depuis des années, qu'elle aimerait concrétiser. Alors du coup, je dis écoute, fais nécessaire, fais un business plan, fais, tu connais ça, tu es entrepreneur, donc avoir des fiduciaires, je sais pas, essayer de récolter des fonds, fais du crowdfunding.
Mets-toi dans l'action, quoi.
Ouais, voilà, mets-toi dans le mouvement. Mais ce qu'il faut savoir, Gabriel, c'est que la plupart des personnes qui souffrent d'addiction ont plein de projets, mais ne vont au bout de rien.
Ah oui, oui, j'en ai croisé des Elon Musk entre 5h et 8h du matin.
Ah, mais moi aussi. Ah ouais, mais les gens, ils veulent changer le monde, mais...
Les astrophysiciens du dimanche matin.
Oui. Mais dès qu'il s'agit de s'y mettre, il n'y a plus personne.
Ouais.
Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai une activité, je dirais que j'ai une vie plutôt normale, et c'est vrai que sa vie en Suisse prend du temps à démarrer, ouais, je pense. Et puis par le plus naturellement des choses, elle va trouver un premier emploi dans un bar. C'est parce que c'est comme ça, voilà. Elle a 40 ans, elle a quand même elle a quand même fait un minimum d'études, un minimum de formation, elle a quand même la capacité de faire mieux que ça. Et une fois plus, je dénigre pas la restauration, c'est pas... j'aime beaucoup ça, j'adore aller au resto, j'adore au bar, je pense que le service, je loue ses activités, mais à 40 ans, je pensais qu'elle aurait un peu plus d'ambition, voilà. Mais en fait, c'était pas une question d'ambition, c'était juste une question de retrouver le plus rapidement possible le réseau nécessaire pour pouvoir accéder à la coque, je pense.
Ok.
Il n'y a pas d'autre explication. Elle voulait retrouver le monde de la nuit, je pense. Le monde de la nuit. Non,
l'environnement, en tout cas.
Je crois. Je pense qu'elle aurait pu mieux faire, mais c'est à partir de là que ça a commencé à sérieusement se dégrader entre nous. Ouais. Parce que là, du coup, le loft, c'est devenu un petit peu...
Pareil qu'à Lyon, quoi.
Ouais, c'était un peu ça, ouais.
Plus avoir un loft en plein centre de Lausanne, pour les afters, c'est la classe, quand même.
Ah ouais, pas que pour les afters, hein, mais même...
Non, mais je veux dire, tu vois,
ouais, on a fait un nouvel an dans cet appart, qui était mémorable. Mais c'est vrai qu'il y avait des dealers en bas de chez nous, enfin, c'était accessible, là, il y avait de partout, là, j'ai même le souvenir, je rentre de déplacement, je crois, pour le boulot, il y a des jeunes chez moi. Ils sont top, pareil, ils doivent avoir quoi, 20, 25 ans. Alors, il y a un héroïnomane, un gars qui prend, il y a de tout, il y a tout. Et je connais pas ces gens-là, ils sont chez moi. Voilà. J'ai 43 ans, elle en est 40, je vois pas comment on peut à un moment donné, se permettre de laisser encore des gens comme ça entrer dans nos vies. Je l'ai très mal pris.
Bah ouais, ce qui est impressionnant, enfin, ce qu'il y a, c'est que toi, tu gardes d'une certaine manière des objectifs et tu veux rester accroché à ton idéal, en fait, et ce qui est courant. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Hein, t'as écouté mes épisodes, t'as écouté mon histoire, les relations où j'étais aveuglé, les relations toxiques, les relations avec les femmes, c'est des choses aussi qui moi. Enfin voilà, j'ai aussi mes histoires. Donc quand je parle avec toi, il y a absolument zéro jugement de ma part quand je dis quelque chose. Et justement, c'est parce que je pense que je me retrouve des fois dans ce que tu racontes. Mais t'as ce truc où je t'entends. En fait, le surinvestissement dans la relation, quoi. C'est-à-dire porter à la fois sur tes épaules le foyer, les objectifs, et du coup jusqu'à même avoir des attentes vis-à-vis d'elle par rapport à son ambition, etc., d'avoir ce truc de je veux redresser la barre et compagnie. Et donc toi, tout ce temps là c'est un moment où tu t'uses, en fait. C'est un moment où psychologiquement, physiquement, peut-être aussi financièrement, mais c'est on s'use, quoi, parce qu'émotionnellement c'est compliqué. Moi, ça me remonte à des moments où j'étais dans le surinvestissement et en face il y avait rien, et même plutôt que rien, c'était du mal et des attaques et des choses qui m'atteignaient. Donc
mais l'amour est un investissement, je pense. Après, il y a pas de, je fais pas le rapport, on attend pas nécessairement un retour, mais on attend au moins le même engagement.
Oui, mais faut qu'il y ait la réciprocité.
C'est ça, et oui.
Pas besoin d'avoir une égalité, c'est-à-dire égalité, mais il faut que la personne ait autant envie que toi en face de construire. Et si on a des moyens différents, quelles qu'ils soient, des ressources différentes, quelles qu'elles soient, sociales, émotionnelles, financières, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut avoir, comme dans une relation humaine, si en face de toi t'as pas quelqu'un qui te rend l'appareil, la relation elle est impossible. Et si toi tu prends en charge tout le temps ce besoin d'essayer de faire arriver cette réciprocité, on est quasiment dans une sorte d'addiction moi j'ai personne qui m'écoute, j'ai personne qui me donne de l'attention, donc je veux encore donner plus, je veux encore faire plus, et ça s'arrête jamais, tu vois. Et on tourne autour des sujets de dépendance affective et ce genre de choses.
Ah oui, complètement, complètement. Ah, mais j'ai ma part de responsabilité dans l'échec de cette relation aussi. J'aurais dû recadrer plus rapidement.
Ou partir
plus vite, ou partir plus tôt, ouais. Mais non, j'étais accro à cette nana.
Tu le dis, tu vois, c'est
vraiment quelque chose. Mais je pense qu'elle n'était pas en mesure d'offrir à la relation ce que moi j'en attendais. Ouais.
Et à quel moment est-ce que ça... à quel moment est-ce que ça devient trop, tu vois? Parce qu'il y a eu, les phases psychotiques, il y a le déménagement à Lausanne, le nouveau contexte, puis ça recommence. C'est quoi le point, on va dire, culminant après? Parce que pour toi, ça commençait à devenir un problème. C'est
24
à quel moment est-ce que ça
craque? 24 septembre 2022. C'est mon anniversaire, c'est mes 42 ans. On est à Lyon. On a un concert à l'Altony Garnier, bien arrosé. Et après, derrière, on doit retrouver des amis au sucre. C'est ma soirée. Je vais être bien. Je vais profiter un petit peu du son. Et là, donc, on arrive au sucre. Et donc, je sais très bien que c'est à partir de ce moment-là qu'elle va aller faire quelques séjours aux toilettes. Et là, elle bascule dans une hyper-agressivité, une provocation folle. Je comprends pas. Je demande rien à personne. Et elle m'attaque. Constamment.
C'est sur quel sujet qu'elle t'attaque?
Alors, parce qu'en fait, vu qu'elle a la particularité de consulter mon téléphone, principalement en fin de soirée quand je dors, évidemment, quand elle est plus vraiment elle vide mon téléphone. Alors toutes les applications sont ouvertes, hein, même les jeux, tout est ouvert. Et donc elle avait repéré un échange avec une nana, mais bon, c'est juste un échange. Enfin, j'ai pas mal d'amis filles. Hein, je pense qu'elle était suffisamment au fait de mes sentiments pour elle. Enfin, j'ai jamais fauté de ce point de vue-là. Et elle m'attaque directement sur elle. Enfin, à un moment donné, je veux bien lui remontrer, je veux bien lui expliquer. On peut l'appeler. J'ai rien à cacher. Et non, ça provoque, ça attaque. Et là, je lui réclame les clés de chez mes parents. Je veux rentrer. J'en ai marre de je passe plus une bonne soirée. Et là, elle refuse. Elle refuse de me donner les clés de chez mes parents.
Pourquoi c'est elle qui les a?
Parce que elle a un sac à main et que j'en ai pas.
D'accord.
Non, mais j'ai parce qu'on dort là-bas tous les deux. Enfin voilà, c'est donc et là elle refuse et mais je vois quand elle je son regard quand elle refuse de me donner les clés, je l'ai ancré encore aujourd'hui dans ma, il est encore en moi. Il est là. Il est des fois il me réveille la nuit. Hein. C'est quand même enfin c'est je là je vois la violence là. Là je vois la ouais, je là je ramasse. Là je dis stop. Enfin je dis stop. Je dis tant pis. Je me barre. Donc il pleut. Je passe 3 heures sur un marché sous la pluie dans Lyon avant de la retrouver. Elle est chez une copine. Enfin je récupère mes clés et je rentre à Lausanne direct sans elle. Donc là pour moi c'est le début de la fin. Je vois pas trop comment on peut sauver le truc là.
Et quand tu dis que tu vois la violence,
je vois un regard noir, je vois la mort dans ses yeux. Je sais pas comment t'expliquer, c'est, bah, je pense que t'as jamais vu la psychose de près, mais t'as jamais vu le,
mais
j'ai peur. Moi, j'ai peur. C'est la peur qui dicte mes actions. Bref, j'ai peur. J'ai peur pour mon intégrité.
En fait, il y a pourquoi je te pose la question parce que ça me rappelle le jour où moi je me suis retrouvé dans l'appartement coincé avec ma maman quand j'ai compris que elle avait un problème et que du jour au lendemain, j'ai vu une personne que j'avais jamais vue de ma vie, quoi. Une personne une personne froide, une personne sans émotion et avec le vide et ce que toi t'appelles la mort, etc. C'est ça que ça m'évoque. C'est pour ça que je te posais la question de à quoi ça ressemble et compagnie, parce que c'est quand tu m'en as parlé, c'est à ça que ça me fait penser. C'est on se construit une image sur une personne pendant des années. Peu importe le contexte et la raison, et puis en fait, du jour au lendemain, je sais pas, le cerveau, il est juste aligné au bon endroit, et là, tu vois le décalage, et tu te dis, mais en fait, ton visage, tu tombes de haut, c'est même, moi, je dis, le ciel m'est tombé sur la tête à ce moment-là, et ça rejoint un peu, tu vois, les émotions et ce que tu racontes.
Comme un voile qui vient se poser sur le regard de la personne que tu aimes, quoi. Tu te dis que c'est pas possible, quoi. Tu te dis que t'as pas fait tout ça, que tu dis que t'as pas vécu tout ça pour en arriver là. Tu te dis, c'est pas possible.
Ouais, parce qu'en plus, toi, tu dois te dire en tant que mec, putain, en fait, je le sais, ça fait longtemps que je le sens que ça va pas, et là maintenant, ça va pas. Et quand tu constates les dégâts, tu vois où t'es engagé émotionnellement, etc. Mm-hmm. Et putain, fait chier, on y est. Tu devais le sentir qu'à un moment donné, au fond de toi, que ça allait arriver, mais tu devais le nier. Et puis, quand ça arrive, tu te dis, bon, ok, la bombe, elle a explosé. Et bon, bah, maintenant, voilà, j'encaisse, quoi.
Je pense que pendant 4 ans, je me suis dit que ça ne m'atteignait pas. Et ce soir-là, ça m'a atteint. Ouais.
Et qu'est-ce qui se tient que tu fuis cette soirée-là?
Je rentre à Lausanne, je la laisse rentrer en train avec le chien le lendemain. On se parle un peu, mais c'est très froid à la maison.
Elle s'excuse pas.
Non, mais le problème c'est qu'elle se souvient pas. En fait, elle se souvenait pas de tous ces épisodes. C'est bien le problème en fait. De la même façon qu'elle se souvenait pas que j'étais parti de l'after, là, elle se souvenait pas avoir été aussi dur, quoi, aussi. C'est bien le problème, c'est ce qui aujourd'hui alimente un petit peu aussi ce déni, c'est qu'elle se souvient pas, quoi. Et du coup après je me dis, mais moi j'invente pas ces choses là, enfin je sais pas, donc son déni était encore aujourd'hui une vraie tristesse, ouais. Mais bon, j'ai un dernier joker, je tente la thérapie de couple. Ça, c'était en octobre 2022. Je tente la thérapie de couple. Je dis, écoute, si on n'est pas capable de résoudre ce problème, allons voir quelqu'un.
C'est encore à ton initiative, quoi. C'est encore toi qui
J'y vais encore.
Reste dans l'engagement, jusqu'au bout. Je vais essayer de.
Ouais. 300 francs suisses par personne pour 1h30. Je l'aimais.
Si on rapporte ça à la France, ça serait quoi, 100 balles de l'heure, c'est ça?
Ouais.
100-150 ouais. balles de l'heure, c'est pas assez cher, quoi.
C'est une somme. Mais j'ai plein d'espoir. Je me dis, tiens, t'as peut-être, s'il y a une tierce personne, pourquoi pas. Donc, on y va, on aborde donc nos problématiques de couple. Et, donc là, ça avance plutôt pas mal avec la thérapeute. Et puis vient le moment où elle nous demande d'aborder chacun nos traumas. Alors moi, là, je suis ravi parce que moi, je suis prêt à en parler, je suis prêt à parler des miens et je connais très bien ceux de la personne avec qui je vis. Donc tous ceux que je les connais, puisque ils sortent en fin de soirée, ils sortent quand elle est plus vraiment elle. Donc je me dis, bah, si elle est capable d'en parler maintenant, peut-être que c'est le début d'une piste. Donc moi, je commence, j'aborde le sujet de mon frère. Elle me fait fermer les yeux, machin. Voilà, ça se passe bien pour moi, ça se passe bien. Et donc là, je me dis, bah, tiens, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que je vais savoir si elle est prête à s'en sortir ou pas. C'est maintenant que je vais savoir si c'est névrose, si c'est trauma, si tout ce qu'elle cache en fait derrière cette addiction, c'est maintenant. Et là, silence radio, fin de la thérapie.
Donc concrètement, ça se passe comment ?
Rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne moufte mot. C'est muted. Et là, je vois la thérapeute un peu déstabilisée. Ouais.
Elle se dit, ok, ça va être compliqué.
Et là, elle abrège. Elle dit, ouais, c'est bon. Rappelez-moi si vous voulez qu'on se revoie.
Oui, donc elle comprend.
Elle comprend que c'est plus du domaine psychologique. C'est du domaine psychiatrique.
Ouais.
C'est quand on est. Voilà. Et donc là, j'ai échangé après par email avec elle pour comprendre un petit peu pourquoi elle avait abrégé la séance de la sorte. Et j'ai des emails où elle m'avoue qu'elle avait compris les tendances, ouais, de mon ex et les difficultés, ouais, les difficultés, mais que c'était plus de son ressort. Ouais. C'était pas en thérapie de couple que ça se soigne, ces choses-là. Ça aurait pu. Hein, mais c'est pas en thérapie de couple que ça se soigne. Donc, voilà, ça a été la dernière ligne droite. On rentre à la maison, je lui demande si elle est heureuse, elle me répond qu'elle a autre chose à foutre que d'être heureuse. Bon. Ok. Ça fait mal.
Ouais, clairement.
Ça fait mal d'entendre ça. Et puis je suis vite parti derrière, ouais. Ouais, c'était le choix.
Et ça s'arrête comment?
Je pars, c'est simple. Il y a pas d'autre.
Ouais, tu te barres, mais sans retour, enfin voilà.
Sans tourner le dos. Sans me retourner. En tournant le dos plutôt. C'est pas. Il n'y a pas d'autre mot.
Et tu te retrouves...
Je prends un autre
parce qu'après, tu dois encaisser, ouais, mais après, tu te retrouves solo et du coup, tu dois commencer à encaisser tout ça, quoi.
Je sais pas ce qui se passe, en fait. Je réalise pas du tout ce qui se passe. Je sais que c'est mon instinct de survie, en fait, hein, qui m'a fait partir. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ouais, je te disais, je quitte le logement commun, donc début 2023. Un peu dans la précipitation, mais ouais, je me dis qu'il n'y a plus d'espoir. Je me dis qu'il n'y a plus d'espoir et que...
Voilà, tu comprends que c'est fini et qu'il va falloir que tu fasses autre chose. Même si ça va être compliqué, tu t'as compris que là, tu lâches l'affaire, quoi.
Ouais, j'ai beau encore être amoureux, je me dis que là, ça suffit plus. Là. Je me dis que ça ne suffira pas. Et qu'il faut que je me détache de tout ça et que je reparte sur autre chose et que je me concentre sur d'autres activités, que je me reprenne en main, que je remets tout en question.
Et ton état psychologique à ce moment-là?
Alors moi j'ai l'impression d'aller bien, mais c'est juste une impression. Hein. J'ai vraiment l'impression d'aller bien, de me dire ah bah tiens, je vais me retrouver, ça va. C'est
nouveau départ d'une certaine
manière. Ouais, ouais. Après, j'ai un peu de mal avec la solitude au début, bien sûr, mais je me dis non, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Malheureusement, c'était sans compter les autres. C'était sans compter les connaissances en commun. C'était sans compter les langues qui allaient se délier. C'était sans compter ouais, tous les retours de flamme. Ouais. Bon, du coup, je rentrais à Lyon régulièrement voir mes parents. Ça m'arrivait je faisais pas nécessairement appel à ces gens, hein, mais ça m'arrivait de les croiser par-ci, par-là. Et là, les témoignages de trahison, d'humiliation, de manipulation, mais des trucs qui étaient parfois hyper glauques. Et là, je tombe, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis fin à la relation et je vais en souffrir après, quoi.
C'est elle qui non, mais en fait c'est des histoires qui se sont passées pendant,
voilà,
et
ouais,
qui te sont racontées après.
Ouais.
Ok.
Il s'est passé plein de choses pendant que je m'endormais en after. C'est ce que je me dis, en fait. Je n'ose même pas imaginer tout ce qui a pu se passer, en fait.
Franchement, je te pousserai pas évidemment en parler, mais dans quel ordre
Trahison. Humiliation. Ouais, il y avait des gens qui ont été témoins de certaines choses, dont elles me disaient que c'était des mauvaises personnes, qui cachaient de la coke dans leur salle de bain pour pas qu'elles en prennent, enfin, mais des trucs hyper glauques. Enfin, en fait, elles m'éloignaient de certaines personnes qui étaient pour moi importantes, que je connaissais depuis déjà des années, mais qui avaient compris qu'elle avait un malaise, qui avait compris qu'elle était névrosée et qu'elle cachait ses traumas dans une consommation excessive de cocaïne. Et elle m'éloignait de ces gens-là. Elle me racontait n'importe quoi.
Eh, donc toi, tu reconstruis des trucs.
Ah,
t'as des gens qui disent, mais non, en fait, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas la réalité.
Ah ouais, il y a des gens qui me disent,
t'as été construit il y a un mensonge qui s'est construit, quoi.
Ah, mais monstrueux. C'est monstrueux. Il y a des gens qui me disent, nous, on attendait qu'une chose, hein, c'est que tu te caches la gueule, quoi. C'est que tout se cache la gueule. Les gens savaient des choses que moi, je ne savais pas. Et après tout cet investissement, après tous ces efforts, prendre ça dans la tronche, ouais,
c'est
le coup de grâce. J'ai sombré. Mais quand je te dis sombré, c'est que j'ai sombré.
T'as fait quoi? Ça a été quoi ton réflexe quand t'as sombré? Tu t'es tourné vers les substances ou t'es replié sur toi?
Non, urgence psychiatrique.
Ah oui, tout de suite.
Ah ouais, moi là-dessus.
Ah mais t'as eu ce réflexe-là.
Non mais moi je suis pharmacien de formation, je suis professionnel de santé, je sais quand je dérape, hein, je sais quand c'est plus de là quand j'ai plus de. Tu parlais de t'as l'impression que la tête allait exploser. Là j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Ouais. Donc je me dis bon là il me faut. Alors je connais les médicaments donc par chance j'ai pu éviter. Parce qu'il y avait des médecins qui étaient prêts à mettre des doses de charge de malade. Hein. Je dis non mais attendez là. On n'en est pas là, vous n'allez pas non plus mettre la camisole de force. Donc j'ai eu du Lexomil en légère dose, voilà, un petit anxiolytique.
Ça m'a
calmé direct, mais j'ai pas eu à passer par des. Mais je me suis fait peur, ouais. Puis thérapie directe.
Ouais. Et t'as pas eu le réflexe toi-même. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, mais la coke, t'en prenais ou pas, toi?
Non. Ah non, jamais. Je me suis toujours refusé, ouais.
Waouh.
Ouais.
C'est fou. Ouais, parce donc, que t'as pas eu ce réflexe de dire, je sais pas moi, tu vois, d'autodestruction, de tu m'as détruit, putain, j'ai pas de ressources, et bam, moi aussi, vas-y, je vais me détruire et me flinguer la gueule, quoi.
Non. Ah non, mais si tu veux, pendant les études, on étudie l'effet immédiat de la cocaïne sur le cerveau. Mais on étudie pas l'effet à long terme. On a assez peu de recul, en fait.
On commence à en avoir. Il y a rien de bon dans la coke à long terme. Hein. Et moi, je l'ai senti pour te donner un témoignage perso après cette année. Donc moi, c'était pas quotidien, mais c'était quand même hebdomadaire. Il y a eu des périodes de 2-3 mois où il y en avait moins ou voire pas. Mais j'ai quand même eu dans mon esprit, la cocaïne était dans ma tête tout le temps pendant ces temps. Quoi. Donc tu vois, c'est ça qui définit l'addiction. Mais j'ai senti à la fois influencé par le contexte, mais la parano, donc la parano de mon milieu, toujours peur que l'impression que des gens sont en train de parler de moi en face de moi alors qu'ils parlent pas de moi, le sentiment qu'une pièce entière est contre moi alors qu'en fait ils on fait tous notre vie, enfin on est en groupe, tu vois, mais ces sentiments de parano, de d'être qu'il y a un complot qui est montré contre moi, des moments une voiture de police qui passe dans la rue, dans ma tête c'est putain en fait ils vont venir m'arrêter parce que ça fait 5 ans que je prends, tu vois, ces trucs là je les ai vus arriver sur la fin. Ma mémoire aussi, ma capacité de mémoire, ma vivacité d'esprit après 6-7 ans, et je disais c'était pas quotidien, donc, et j'étais pas sur sur des je prenais 2 à 3 4 grammes par semaine. Donc par rapport à d'autres personnes, j'étais pas à 15 années de consommation et j'étais pas à des 2-3 grammes par jour, ce qui existe aussi. Donc c'est pour montrer que déjà on n'est pas tous les mêmes. Ça aussi, il y a des gens qui vont avoir plus de vulnérabilité, d'autres moins. Mais moi je les ai sentis arriver de plus en plus et je les ai conscientisés, quoi, ces trucs, ces conséquences. Et donc tu parlais, tu disais une personne sur 4, j'ai pas malheureusement pas les chiffres en tête comme ça, mais la parano, la psychose la déconnexion psychique, c'est une évidence. 10-15 années de consommation hebdomadaire voire quotidienne de cocaïne, et c'est vers là que ça se dirige, quoi. La fin du chemin, c'est que des emmerdes psychiatriques et c'est la destruction même irréversible de certaines zones et parties du cerveau pour les calours, quoi. Donc c'est
il y a des signes tout bêtes. Est-ce que t'étais capable de regarder un film du début à la fin?
Non.
Est-ce que t'étais capable?
Combien de temps?
Ah ouais.
Tu vois, j'ai un TDAH, donc c'est un peu différent. Mais non, je regardais jamais des films. Je les regarde. Si, je regardais des séries. Ouais. Non, ça allait, ça passait.
Combien de temps parce que moi, j'ai le souvenir de ça, en fait, où je lui disais, vas-y, choisis un film sur Netflix ou sur. Je pense qu'il fallait presque, je sais pas, 45 minutes pour choisir un film.
Ouais. Oui, mais à partir d'un moment où c'est certaines zones sont très 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 altérées, c'est compliqué, ouais. Et on parlait de toi, désolé, je rebondissais sur mon expérience personnelle, mais urgence psychiatrique, super réflexe. D'ailleurs, on peut un peu développer ce sujet-là parce que. On ne sait pas toujours que ça existe les urgences psychiatriques. On a toujours, ça peut être stigmatisant et on pourrait se dire, mais j'ai pas envie de rentrer chez les fous et je sais pas ce qu'il y a derrière et je sais pas comment ça se passe. Raconte-nous un peu si tu veux bien déjà, parce qu'en plus toi t'as une casquette quand même, t'es dans le domaine pharmaceutique, donc t'as aussi tu peux en parler, quoi. À quoi ça sert une urgence psychiatrique? Comment ça s'est passé toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Comment est-ce qu'on t'a pris en charge? Et puis comment ça a été après?
Alors urgence psychiatrique parce que j'ai eu des idées noires. Alors quand je dis idées noires, c'est pas l'envie de me suicider, hein. J'ai pas eu envie de mettre fin à mes jours, mais j'ai commencé à avoir des idées noires, des choses qui me ressemblaient pas du tout. Des idées qui me faisaient peur. Donc j'ai été très bien accueilli. J'ai rencontré une première infirmière qui m'a dit ça peut arriver de rencontrer des gens qui sont pas câblés comme vous, ça peut arriver d'être manipulé, ça peut arriver. Elle a commencé à vulgariser un petit peu tout ce qui faisait que j'étais dans cet état de mal-être, et je suis pas resté, hein, j'entamais la psychothérapie le lendemain, mais je suis resté 2-3 heures aux urgences psychiatriques. J'ai rencontré 2-3 personnes, un médecin qui me prescrit d'anxiolytiques rapides, et voilà, je suis sorti et j'ai bien dormi la nuit qui a suivi. C'était pas le problème, mais c'est vrai que j'ai eu ce besoin là tout de suite de parler à des professionnels de santé, clairement.
Donc c'est intéressant. Donc toi, on est vraiment dans l'urgence de parler, et un numéro de téléphone gratuit, etc., aurait pas été suffisant. T'avais besoin de te rassurer, d'aller voir des médecins et d'être pris en charge dans cette zone de crise un peu, dans cette temporalité de crise. Là maintenant, il faut que j'aille voir des médecins, et le réflexe, c'est urgence psychiatrique.
Ouais, et puis je voulais un mot sur ce qui se passait chez moi. Bah, syndrome post-traumatique. Voilà. Pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres...
Bienvenue au club, mon ami.
Voilà, et ouais. Bingo.
Bah ouais, ouais. Et non, mais c'est évident, c'est évident.
Et
c'est évident.
Et donc, du coup, bah, c'était une première pour moi. Moi, j'avais jamais pris d'anxiolytique de psychotrope de ma vie, je dirais, l'ego. Et depuis, j'ai arrêté de mon propre chef pendant l'été. Alors j'ai encore parfois des nuits un peu difficiles, des cauchemars, des sortes de
pas des de flashbacks.
Ouais, des flashbacks. J'ai tenté le MDR. Ça marche bien.
Ça a donné quoi d'ailleurs? Développe si tu veux bien les bénéfices et.
Ouais. Bon, la première séance c'était plutôt du tapping classique. C'était pas l'hypnose au sens premier du terme. La deuxième, par contre. Ouais, ça m'a bien secoué, ça m'a vraiment remué. Ouais, j'en ai été malade toute la nuit, mais c'était assez radical. C'est, enfin, je sais pas si tout le monde est aussi réceptif, mais c'est très très efficace. Ça peut s'avérer très efficace.
Tu sais nous expliquer comment ça se passe et qu'est-ce qui fait toi? Non mais qu'est-ce qui chez ouais. toi, comment tu t'es senti, est-ce que ça t'a ramené à des souvenirs, est-ce que ça t'a confronté à des choses,
est-ce tout que... tout est remonté.
OK.
Tout est remonté, toutes ces phases de psychose, toutes ces fins de soirée où
tout ce qui t'a blessé.
Ouais, voilà, tous ces moments où le temps est un peu suspendu ou je te dis cette image de sa chienne là dans un coin de la pièce apeurée voyant sa maîtresse perdre le contrôle. Ça c'est revenu aussi, tu vois. Et en plus c'était très chronologique. C'était pas tout mélangé. C'était vraiment les premiers moments à Lyon, et puis ensuite les moments à Lausanne, la fin de la relation, l'épisode avec la thérapeute de couple. Bam, c'est remonté aussi. Tous ces regards là, enfin ces moments où je voyais quelqu'un en face de moi qui n'était pas la personne dont j'étais amoureux, hein, qui était quelqu'un d'autre.
Une illusion.
Je les ai revus aussi. Je me demande si quand on crève, ça se passe pas de la même façon où on a tout qui défile. Je sais pas. Je vois un peu comme ça. C'était très cinématographique en plus. Donc ça a pas duré très longtemps, je pense, mais ça a suffi à ce que je reprenne ouais, vraiment du poil de la bête et à ce que je reparte du bon pied. Ouais. Ouais. Je pense qu'il suffit pas de tant de séances que ça en fait. Donc là, ça n'a pas effacé complètement ses souvenirs.
C'est pas le but.
Mais par contre, c'est
de la désensibilisation.
En fait. Ouais, c'est ça. Ça leur a donné une saveur différente. Et ça m'aide aujourd'hui justement à distinguer, à accepter le fait que j'étais avec une personne malade. Et ça n'atteint en rien. C'est une belle personne, je pense, sincèrement. Mais heurté par la vie et qui malheureusement a noyé ceci dans l'addiction.
Et t'as embarqué avec elle.
J'ai chuté pendant quelques temps avec elle. Ouais. Mais j'ai plein d'espoir aujourd'hui, plein d'espoir.
On va en parler. Ouais. Il y avait un truc que je reconnais chez toi qui fait miroir avec moi, c'est la difficulté, voire même la capacité à nommer des actes ou à nommer des choses parce que quand moi je prends beaucoup la parole pour expliquer mon histoire etc, donner des détails, des événements, des choses que j'ai subies etc, même encore des années après avec beaucoup de travail en ayant du recul, j'ai énormément de mal à faire sortir ces mots-là de ma bouche et c'est caractérisé par le traumatisme et c'est pour ça qu'aujourd'hui une fois ou deux je t'ai demandé de donner des précisions du contexte pour essayer d'en avoir plus. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai compris que en fait c'était pas possible et parce qu'on a ce truc vraiment dans le ventre et dans la gorge qui fait on est pas capable en fait de décrire les choses qui nous ont blessés autant. Et je l'ai beaucoup ressenti avec toi aujourd'hui. Ce truc là, il y a que quand t'as vécu les choses que tu peux le voir chez les autres d'une certaine manière. Mais ouais. ça m'a touché quoi quand on discutait ensemble parce que je sais ce que ça représente derrière.
Oui, et puis il y a quand on n'arrive pas à exprimer vraiment avec des mots ce qu'on a ressenti, les gens ne nous considèrent même plus en fait. On n'a plus. Ce retour à une vie normale, ce retour à un peu plus de paix passe par ouais beaucoup d'au revoir, ouais beaucoup de ça c'est évident,
ouais il faut tirer la chasse comme on dit des fois.
Ouais. et ça m'emmerde parce que bah il y en a certains, je les connaissais même avant de la rencontrer, c'est moi-même qui avait présenté cette femme-là, et je sais pas s'ils ont pris son parti ou je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense que certains ont très mal apprécié le fait justement que je veuille montrer du doigt la maladie, cette maladie.
Ouais, après aujourd'hui et maintenant t'en as conscience, mais la personne la plus importante dans ta vie c'est toi.
Ouais.
Et c'est sur toi qu'il faut te concentrer et évidemment continuer à avancer par rapport à cette histoire qui est relativement récente encore, hein. Il y a de toute façon voilà, ça prend du temps et t'avanceras encore tous les 3 à 6 mois, 1 an, tu verras une évolution par rapport à ça, mais oui non, mais c'est toi, enfin je veux dire c'est toi le plus important, et c'est vrai que c'est pas évident quand t'as des gens de l'extérieur qui te jugent ou qui ajoutent ce poids là etc. Mais t'en sortiras grandi, crois-moi, parce que c'est avec le recul et les années en arrière, le problème, ou en tout cas ces personnes ou les choses qui nous blessent deviennent moins grosses, tu vois, et ça fait grandir, fait mal, mais ça fait grandir.
Bah, je travaille la gestion de mes émotions avec un thérapeute aujourd'hui, je fais pas mal de méditation, j'ai la chance d'avoir un employeur qui est sensible à cette idée-là et qui invite ses collaborateurs à travailler justement la gestion des émotions au travail, la pleine possession de soi, le self-awareness. Donc je découvre tout ça. Moi, j'étais pas sensible du tout à toutes ces problématiques. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, ça prend une place importante. Et ton podcast prend une place très importante aussi, je dois l'admettre.
Trop bien. Qu'est-ce que tu viens chercher? Je te poserai la question pour la partie thérapeutique, mais dans le podcast, justement, dans quel contexte est-ce que tu l'écoutes? À quoi est-ce qu'il te sert? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Je l'écoute très régulièrement dans mon trajet pour aller au boulot. Je l'attends tous les jeudis. Je trouve que c'est des beaux témoignages. Je trouve que c'est des belles histoires de vie. Je pense que c'est plein d'espoir. Et je me dis que tout n'est pas si pourri, la plupart des gens que tu invites ont quand même une tête bien faite et ont beaucoup de courage, je pense, de venir en parler, de parler de leurs problèmes, et je pense que c'est de notoriété publique, voilà.
Ok. Et moi, je suis trop ravi, hein, que ce soit que le podcast ait une place comme ça. Dans ta vie, c'est pour ça qu'elle a été créée, et c'est trop chouette. Je suis très très heureux de l'apprendre, et t'es là aujourd'hui, donc c'est cool. Comme ça, tu vas pouvoir participer justement à ça, et il y a peut-être quelqu'un qui lui aussi ou elle aussi attend le podcast chaque jeudi et qui va se reconnaître dans ton truc, dans ton histoire et dans ton témoignage. On parlait juste avant de la partie thérapeutique, méditation, etc. Des ressources que tu as découvertes en cours de route. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ces choses-là?
Ah, je respire bien mieux. Ah ouais. Ah, c'est évident.
T'as le ventre qui se gonfle, le diaphragme relâché.
Clairement. Je sais pas, ça se bouscule moins au portillon, j'arrive à mieux poser mes mots. J'ai vu les effets immédiats au travail. Non, c'est que du positif. C'est que du positif. Être en pleine conscience de ce que l'on ressent, ça aide à mieux faire. Clairement. C'est que bénéfique. Ce n'est que bénéfique. Je vois pas d'autre. Je pense que c'est tout le monde devrait à un moment donné se regarder comme ça.
Tu parlais tout à l'heure d'espoir et j'ai lancé un peu une, deux, trois digressions. Enfin, on est reparti un peu sur d'autres sujets. Tu parlais d'espoir. C'est quoi ton avenir? Comment est-ce que tu reconstruis un petit peu l'idée de ton futur?
J'aimerais bien fonder une famille. J'aimerais bien. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, j'aimerais bien justement. Pouvoir partager avec un nouvel enfant. J'ai déjà un ado, moi qui est déjà adulte là maintenant, quasi adulte, adolescent, qui a plus trop de temps pour moi. Moi j'ai 43 ans, je pense que j'ai encore une vie à remplir. C'est un peu le projet à moyen court terme, ouais. C'est transmettre et sensibiliser aussi à ce bien-être mental et physique, ouais, clairement. Donc c'est important.
Ok. Il y avait une question que je voulais te poser par rapport à la relation homme-femme, etc.
Et vous?
Est-ce que c'était la première et la seule fois que t'es tombé sur une relation pas équilibrée, qu'on pourrait qualifier de toxique, etc. Ou est-ce que chez toi, il y a eu, un peu comme chez moi aussi, schéma répétitif?
Ouais. Non, c'était pas la première. Alors là, c'était la plus extrême dans le sens où je me suis mis en danger, clairement. Mais j'avais par le passé déjà, la relation plus courte. J'ai ce côté un petit peu
sauveur.
C'est ça. Et c'est toujours plus facile d'aller se régler les problèmes des autres que de régler les siens, hein, n'est-ce pas? Donc ouais, ça c'était un petit peu,
T'as compris, non?
Maintenant c'est compris, ouais, c'est clair. la personne que j'ai rencontrée dernièrement, elle a pas besoin de moi, hein. Et c'est tant mieux.
Tu es avec, quelqu'un.
Ouais, je refais ma vie.
Ok. Et ça se passe bien.
Elle est hyper indépendante, hyper branchée, santé mentale, méditation, sport. Ouais. Personne.
Ok.
Tout à fait recommandable.
Je suis content pour toi.
Merci beaucoup.
Content pour toi. Trop bien. Écoute, tu m'avais parlé d'un texte tout à l'heure.
Oui, alors c'est une. Alors du coup, dans mes lectures, parce que je sais que ça, toi aussi, c'est quelque chose qui t'accompagne pas mal. Évidemment, le bouquin d'Ashley Taïeb, Ma liberté si je veux, et puis la BD de Sylvie Gaillard, Les lions endormis, qui est un peu l'histoire de Johanna Balavoine. J'aimerais lire juste la préface, un texte de Sylvie Gaillard justement, qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup parlé. Je l'ai vu leur faire du charme, je l'ai vu les amuser, les distraire, je l'ai vu leur faire croire que grâce à elle, ils étaient plus forts, invincibles, immortels. Je l'ai vu les prendre par la main, les emmener dans les limbes, là où la lumière n'est plus. Elle s'est mise dans les doutes, dans les peurs, dans les folies, dans les failles. Elle incite au mensonge, à l'isolement, à l'enfermement, à la paranoïa. Elle s'attaque à la faiblesse, au désarroi, à la tristesse. Elle fait mine de combler des vides. Elle repère ses proies, les attrape et les torture, parfois jusqu'à la mort. Elle emprisonne, manipule et prend le pouvoir. Elle ronge le corps et l'esprit. C'est une meurtrière, un serial killer, un gourou, un mirage. Elle s'attaque à nos enfants, à nos proches, à tous ceux qu'on ne connaît pas. Ses victimes sont nombreuses, trop. Elle n'a jamais osé m'approcher de trop près. Elle n'a pas intérêt. Elle sait. Elle sait qu'elle ne mourra pas. En revanche, j'ai vu les dégâts qu'elle causait. J'ai été une spectatrice impuissante face à cette force de persuasion qui la caractérise. Rien n'est acceptable dans la drogue. N'ignorez pas son existence, au contraire. Et surtout, ne sous-estimez pas ses capacités. Elles sont immenses. Dénoncez-la, montrez-la du doigt, parlez d'elle, hurlez à l'assassin. Elle détestera. On ne se drogue jamais un peu, on se drogue. Point. L'histoire de Johanna est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un combat, c'est l'histoire d'un chemin. Parfois, il m'arrive de penser que le mal existe pour que le bien triomphe.
Ça, merci.
Ça pourrait être aussi... Ça pourrait tout à fait définir ton podcast, je pense.
Ouais. C'est... Ouais. Dans ce texte, avec ma vie à moi, j'entends... Ça peut être à la fois la drogue et à la fois la mère et la femme.
Et l'amour, et la relation, l'amour.
Et la relation, ouais, c'est ça, tu vois. Mais moi, quand les premiers mots de, évidemment, on est dans le contexte, mon cerveau fait l'association avec la drogue et la cocaïne. Mais il y a aussi, je pourrais mettre le mot maman aussi, moi, en ce qui me concerne, derrière ça, avant que le texte annonce la drogue.
Ouais.
C'est dans quel BD tu peux rappeler, s'il te plaît?
Ça s'appelle Les Lions Endormis de Sylvie Gaillard.
Voilà. Et c'est le texte est de Sylvie Gaillard ou c'est Johanna Balavoine qui l'écrit?
C'est avec le concours de Johanna Balavoine.
D'accord, ok. Mais ça marche. Non, comme ça, on laisse à César ce qui appartient à César, évidemment. Mais
c'est une bouleversante bande dessinée, vraiment.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Yann?
Du bonheur. Comme à tout le monde.
Ok, ça marche.
À toi aussi.
Bah écoute, je te remercie d'être venu sur ce podcast qui est, t'étais déjà chez toi avant en l'écoutant, mais maintenant voilà, bienvenue chez toi en étant dans la liste des invités et ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi.
Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, Gabriel.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Sortir de l'addiction. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram @sortirdeladdiction. C'est là qu'on peut échanger si l'envie t'en vient. Je partage aussi les coulisses du projet. Et pour rappel, le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute et si t'es vraiment motivé, de me laisser un avis 5 étoiles. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment où tu écouteras cet épisode et je te dis déjà à la semaine prochaine pour un 45e épisode de Sortir de l'addiction.